Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
18h40, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, dans RTL Soir. On va défaire le monde maintenant avec Cyprien Cini et toute la bande. Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Aska. L'info autrement jusqu'à 19h. Le menu, Cyprien.
Ce soir, on défait le monde, met les pieds dans le plat, de la viande sans viande et du poisson sans poisson. Derrière l'étiquette, on a décortiqué l'alimentation du futur. On vous parlera également de la folle aventure spatiale de Philippe Croizon et de vaches qui vont aux toilettes toutes seules. Ouais. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici tout de suite le son du jour.
Oui, vous avez certainement reconnu ici Marguerite, oui. Charmante charolaise hein, de 700 kilos, prête à devenir un steak. Sauf que,
oui, un gros steak.
Avec l'évolution des mœurs, le bien-être animal, l'écologie, la santé, la viande sans vache et le poisson sans poisson se retrouvent désormais dans nos assiettes.
Et alors que le salon international de l'élevage s'ouvre aujourd'hui à Rennes, c'est déjà une réalité. Steak de soja, nuggets de blé, galettes végétales. Aux États-Unis, la viande alternative représente déjà 1,4% des ventes. Et c'est désormais le poisson qui est dans le viseur des industriels.
Du poisson dit végétal, aussi constitué d'algues, de champignons, de tomates ou encore de tofu. En gros, une alimentation où l'on pourrait se passer de l'élevage. Et forcément ça, bah dans l'équipe d'On défait le monde, ça nous a interpellés.
On s'est donc demandé si c'était vraiment la solution pour sauver la planète et si c'était bon pour nous.
Et pour nous éclairer sur le sujet, on a contacté Bertrand Valliorgue. Il est l'auteur de Refonder l'agriculture à l'heure de l'anthropocène aux éditions Le Bord de l'eau. Et d'abord, est-ce que c'est une alternative plus écologique? Eh bien, vous allez l'entendre, c'est pas si simple.
Quand on étudie un petit peu les promesses commerciales ou les promesses en termes de stratégie d'entreprise de ces acteurs-là, ils nous disent, ben vous voyez, avec nos solutions, nous allons arrêter ou nous allons considérablement réduire l'activité d'élevage. Et en plus, nous allons arrêter l'alimentation de l'élevage. Donc on supprime en réalité deux maillons. Donc ils nous disent, vous vous rendez compte, en enlevant cela, on va nécessairement avoir un impact positif. En revanche, ils ne disent pas l'énergie qu'ils vont consommer, l'impact environnemental qu'ils vont avoir et puis aussi les substances qu'ils mettent dans ces produits pour arriver à faire ces solutions alimentaires. Donc la contribution nette et en particulier la contribution environnementale, elle est absolument pas démontré aujourd'hui.
Oui, parce que pour produire ces steaks végétaux, évidemment, il faut quand même cultiver beaucoup de protéines végétales, du soja ou des pois notamment.
Et d'un point de vue nutritionnel, alors, est-ce que le steak sans viande ou le poisson sans poisson, c'est meilleur pour la santé?
Ah, je reconnais là votre envie de manger plus sainement,
exactement.
Julien. Eh bien, à en croire notre expert, rien n'est moins sûr.
On a la preuve qu'on peut se nourrir comme cela, mais il y a deux limites à ça, c'est-à-dire que quand on supprime les rations, les protéines de type animal, eh bien il faut manger plus de protéines végétales pour compenser, donc ça nécessite une consommation un peu plus importante de protéines végétales. Les nouveaux steaks végétaux, il y a quand même énormément d'adjuvants pour arriver à donner du goût et de la saveur et de la texture. Donc ils mettent des choses, des compléments, on va dire ça comme ça aujourd'hui, et des colorants également. Donc là, il faudra bien démontrer les impacts que cela peut avoir sur la santé. Il faut bien savoir que c'est de la nourriture hyper transformée, ultra transformée par rapport à ce que l'on peut connaître.
Bon, si je comprends bien, ce n'est pas forcément beaucoup plus écolo, ce n'est pas forcément beaucoup plus sain. Alors dites-nous pourquoi c'est présenté comme la solution par excellence.
Eh bien, selon Bertrand Valliorgue, on est peut-être un peu dupe en fait. Il y a une part de marketing assez efficace derrière tout ça.
Il y a une caricature du secteur de l'élevage qui est faite. Qu'il y ait des problèmes des émissions de méthane, de gaz à effet de serre, c'est indiscutable. Mais si vous voulez, c'est une catégorie d'élevage qui fait ça. Si vous prenez des élevages dans le Cantal, dans la Creuse, ces élevages-là d'animaux, ils ont absolument pas un impact environnemental négatif. C'est le contraire. Ils ont un impact environnemental positif parce qu'ils entretiennent des prairies. Ces prairies, elles se développent et ces prairies, elles stockent du CO2. Donc là, on a, de mon point de vue, clairement un argument marketing qui caricature une réalité. Très clairement, il y a une stratégie économique, il y a une stratégie pour se montrer plus vertueux, il y a une stratégie pour répondre à l'angoisse climatique aujourd'hui en montrant qu'on est susceptible d'apporter une solution. Tout ça est fait très intelligemment. On est dans du beau marketing.
Bon, on y voit plus clair. En tout cas, ce soir, vrai steak ou faux steak, faites votre choix.
Regardez les étiquettes.
À quelques minutes du repas.
RTL. Sous les radars.
Effectivement, tous les soirs, sous les radars, dans On défait le monde, on vous offre en quelque sorte ces cadeaux, une info qui n'a pas été entendue ailleurs.
Et celle-là, elle est tellement extraordinaire qu'on ne pouvait pas la rater. Alors je vous préviens, ça peut faire sourire au début, Mais c'est tout à fait fascinant et ça pourrait même devenir très utile, Céline.
Oui, on parlait élevage à l'instant. Mm-hmm. Eh bien, sachez qu'il faudra peut-être bientôt installer des toilettes pour vaches sur les fermes. Mm-hmm. Des scientifiques néo-zélandais et allemands assurent en effet avoir réussi à dresser des vaches pour les faire uriner au petit coin.
D'accord.
C'est très sérieux, les garçons. Alors, les chercheurs reconnaissent que l'expérience avait commencé comme une blague, un peu comme vous, ils en riaient. Mais ensuite, ils ont vraiment utilisé de la nourriture comme récompense pour apprendre à 16 veaux à uriner dans un enclos à latrine. Et ils assurent que les résultats sont comparables à ceux qu'on pourrait attendre chez un enfant de 3 ans. Alors, ok, fou, drôle. Mais ensuite, eh bien, si on arrive à changer d'échelle, à passer de cette preuve de concept, hein, si on veut, à une généralisation de l'habitude, ça pourrait changer beaucoup de choses en matière de pollution. D'après les scientifiques, recueillir 10 à 20% des urines suffirait déjà à réduire les émissions des gaz à effet de serre et le lessivage des nitrates. En fait,
incroyable.
Selon eux, l'azote qui est contenu dans l'urine des vaches, il se décompose au fil du temps en deux substances problématiques. D'un côté, vous avez l'oxyde nitreux, c'est un puissant gaz à effet de serre. De l'autre côté, le nitrate qui, lui, s'accumule dans le sol puis s'infiltre, on le sait, dans les rivières et les ruisseaux. En Nouvelle-Zélande, un exemple, 5% des émissions de gaz à effet de serre sont ainsi liées au bétail.
C'est incroyable,
c'est incroyable. La science va nous sauver. Vive les pipirômes pour les vaches. Merci beaucoup, Céline. On marque une petite pause et on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. On va partir à la pêche, à la chasse, au parrainage.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, 18h49, On défait le monde qui continue dans RTL Soir. Si vous vous lancez dans un débat politique tout à l'heure au dîner, on vous offre une petite info pour briller au dîner, la première.
Oui, allez, pour Laurent qui nous emmène battre la campagne et taper aux portes des mairies.
Bah oui, parce que si Éric Zemmour, qui était sur RTL ce matin, décide de se présenter à l'élection présidentielle, bah qu'il n'oublie pas la règle des 500 parrainages. Sésame indispensable, mais ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'en 1976, il n'en fallait que 100. Alors, sauf que certains critiquent à ce moment-là le défilé des candidature, 6 prétendants à l'Elysée en 1965, 12 en 1974. Le Sénat adopte alors en 1976 un projet de loi pour porter à 500 le nombre de signatures dans au moins 30 départements et éviter les candidatures fantaisistes. Première mise en application, l'élection présidentielle de 1981. Une réforme fatale à Jean-Marie Le Pen qui ne peut pas se présenter. Mais ces 500 signatures n'empêchent pas l'inflation des candidatures avec un record en 2002, 16 candidats au premier tour.
Bon, record à battre.
Record à battre. Pour l'instant, je crois qu'on est à 32. Candidature.
Mais c'est pas fini.
On verra si la quête des parrainages réussit à faire baisser ce nombre pour l'instant astronomique. Merci beaucoup, Laurent, pour cette info pour briller.
On défait le monde dans RTL Soir.
Voilà, l'heure du verdict. Chaque soir, Céline Landreau désigne le winner ou le loser, le grand gagnant ou le grand perdant du jour.
On a mis le paquet sur la production. Hein. Et ce soir, attention, événement. Enfin un winner, enfin un gagnant qui trouve grâce aux yeux de Céline. Et ça, bah, c'est pas courant.
Hein. Oui, je voulais vous parler de Philippe Croizon. Vous savez, ce Français amputé des jambes et des bras, capable de faire ce genre de tuto au début de la pandémie de Covid. Je vous rappelle qu'il n'a pas de bras.
Les amis, en ces moments difficiles, j'ai décidé de faire un petit tuto pour vous montrer comment bien se laver les mains. Et bien voilà.
Voilà. Philippe Croizon.
Il est extraordinaire.
Exactement. En Floride, à Cap Canaveral, invité par Elon Musk, le patron de SpaceX, pour assister au décollage et à l'amérissage de la capsule Crew Dragon, la première à envoyer des touristes dans l'espace. Car lui, il rêve d'être la première personne handicapée à s'envoler dans l'espace. On l'a eu tout à l'heure au téléphone des États-Unis et il nous a raconté comment il avait contacté Elon Musk l'hiver dernier.
J'avais fait un tweet à Elon Musk en lui disant « Hello Elon, voilà, je suis un aventurier français, j'ai pas de bras et pas de jambes, envoie-moi dans l'espace. » Et bizarrement, Elon Musk m'a répondu « Hi Philippe, ok, dès que Starship est prêt, on t'envoie dans l'espace. » Et moi qui me dégonfle jamais, je dis « Écoute Elon, mes messages privés sont ouverts, vas-y écris-moi. » Et depuis on échange, il m'a mis en contact avec Jared, Isaacman, qui va décoller là, demain. Et ils m'ont dit « Écoute, il faut absolument que tu sois là pour assister à cet événement et après on va discuter. »
Et les discussions sont donc en cours. Alors, pas de date pour un voyage du Français à ce stade. Évidemment, il va falloir une longue préparation en amont.
Vous savez, le dernier message que j'ai vu avec Elon Musk il y a quelques temps, il me disait, Philippe, ce qui aurait été génial, c'est que tu aies une main, quoi. Au moins une main. Mais voilà, c'est pas fermé. Après, la décision va revenir aux ingénieurs de SpaceX et aux médecins et tout ce qui va bien, la sécurité. Donc, c'est ça qui est génial, parce que mon aventure, c'est pas seulement l'aventure d'envoyer un gars dans l'espace. C'est aussi, il va y avoir de la technologie, de la recherche. Et peut-être que la recherche qu'on va faire pour moi, pour pouvoir atteindre cet objectif, je lui mets toujours tout au conditionnel. Hein. Mais, et après, ça va servir au restant du monde.
Le jour du décollage, vous l'avez compris, n'est pas encore venu. Mais avec Philippe Croizon, on sait que rien n'est impossible. Il suffit de voir son parcours, la traversée de la Manche à la nage d'abord, puis quelques années plus tard.
Jules Verne aurait été épaté par Philippe Croizon. Certes, le Châtel Rodet a mis un peu plus de 80 jours pour faire son tour du monde. Mais sans bras, sans jambes, relier les 5 continents à la nage est un exploit inouï.
Tout ça avant de se muer en 2017 en pilote sur le Dakar, en rappelant à l'arrivée sa devise.
Salut les amis, ça y est, on est à Buenos Aires. N'oubliez pas que tout est possible. L'impossible, c'est juste vous, c'est personne d'autre. À bientôt, les amis.
À bientôt, Philippe Croizon. On en est sûr, il n'a pas fini de nous impressionner.
Oui, il est très impressionnant. Moi, j'ai eu la chance de sauter en parachute avec lui, avec RTL, pour la recherche sur les maladies cardiovasculaires. Et franchement, c'est un gars absolument extraordinaire. Ça valait le coup de le saluer, c'était notre winner du soir.
Moi j'ai fait du ski avec lui.
C'est vrai ?
Tout le monde s'en fiche.
On est très proche. Hein.
Non, mais ça veut dire qu'il fait du ski, du saut en parachute et qu'il va peut-être aller dans l'espace.
Il n'a peur de rien. Allez, une petite pause dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner. On va parler Ligue des Champions juste après ça.
On défait le monde dans RTL Soir.
L'info pour briller dans On défait le monde.
Et oui, c'est cadeau tous les soirs dans On défait le monde, dans RTL Soir à 18h56. On vous livre la seconde info pour briller, là, tout à l'heure, au dîner.
Et celle-là, elle concerne la Ligue des Champions qui reprend ce soir avec Lille-Wolfsburg. Et vous, Arthur, vous avez une info là-dessus.
Bah oui, parce que la Ligue des Champions, est-ce que vous savez qui l'a inventé ?
Bah l'UEFA, non ?
Bah non, c'est pas l'UEFA, Julien. C'est le journal L'Équipe. C'était, eh oui, c'est français, ça vient de chez nous. C'était le 14 décembre 1954. Le journaliste Gabriel Hano lance un appel à la création d'un championnat d'Europe des clubs dans les colonnes du quotidien. L'année suivante, c'est donc L'Équipe qui s'occupe d'organiser la Coupe des clubs champions de A à Z. Tout est bouclé. Mais quelques mois avant le premier match prévu en septembre, la FIFA demande finalement à l'UEFA de prendre en charge l'organisation de la coupe. Bon, ceci dit, on est pas mal en France pour inventer des compètes ou des récompenses prestigieuses. Tenez, le Tour de France, bah, c'est l'œuvre de Lotto, l'ancêtre de L'Équipe.
Ah, ouais.
Et le Ballon d'Or, eh ben, évidemment, c'est le magazine France Football qui l'a mis sur pied.
Ouais. Donc en France, vous constatez qu'on est bon pour inventer les compètes, moins pour les gagner.
Hein. Bah, ça dépend des époques.
Le Marseille, vous souvenez de 93.
Bah, oui, il y en a qu'une. Quoi.
C'est vrai qu'il y a, le Grand Olympique de Marseille, le meilleur club du monde.
Oui.
Merci beaucoup. Arthur, en toute objectivité, je dois choisir donc la meilleure des infos pour briller. Et ce soir, match nul. Voilà, on innove dans RTL Soir.
Tu t'endors, non ?
Marche ou rêve ?
Allez, tous les soirs à 7h06, juste avant 19h, on part à votre rencontre et on met en valeur vraiment vos initiatives, de belles idées, de jolies histoires.
Avec le procès des attentats du 13 novembre, on évoque parfois, en parlant des victimes, le syndrome du choc post-traumatique. Ce soir, Laurent, vous nous présentez un ancien soldat qui a entrepris une longue marche pour alerter sur le sujet.
Et la guerre ne laisse pas que des blessures physiques. Les militaires peuvent aussi être victimes de ces troubles. C'est le cas d'Alexandre, victime de ce syndrome au retour de mission. Il s'est lancé le 27 août dans une marche de plus de 500 km pour sensibiliser. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Vous avez 34 ans, vous avez réalisé 2 missions de 6 mois en Afghanistan en 2008-2009 et 2009-2010. Comment se manifeste cet état de stress post-traumatique ?
Tout d'abord, ça s'est manifesté par des cauchemars, des crises d'angoisse, un changement de comportement avec beaucoup d'irritabilité, beaucoup d'incompréhension, des symptômes anxio-dépressifs qui nécessitaient une prise en charge médicale. Voilà.
Et c'est bien pris en charge dans l'armée ou pas ?
Oui, tout à fait. Donc, à l'époque, on en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Et malheureusement, avec toutes ces expériences sur les théâtres opérationnels, on a été de plus en plus exposés à ce genre de blessures. Et du coup, maintenant, il y a une très bonne prise en charge.
Mais ça signifie quoi exactement, prise en charge ? Concrètement, comment on vous soigne, on vous aide à aller mieux ?
On est tous différents.
Ouais.
Alors, pour ma part, j'ai été hospitalisé plusieurs mois. Un peu plus d'un an même. Donc c'était une prise en charge par biais de consultations avec les psychiatres, les psychologues, donc des hospitalisations dans des services de psychiatrie au sein des hôpitaux militaires. Il y a des prises en charge sociales aussi. Donc on a un appui social pour nous aider administrativement parce que avec l'état de stress post-traumatique, on n'est pas en capacité de gérer notre quotidien comme quelqu'un de normal.
Donc vous avez été accompagné. Est-ce que aujourd'hui vous êtes guéri ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Ou est-ce que cet état-là il va subsister à vie et il va falloir gérer ça à vie maintenant ?
Je pense qu'on guérit jamais de l'état de stress post-traumatique de cette blessure. Par contre, on apprend à vivre avec.
Et alors, entreprendre cette marche de 500 km en partant de Paris direction Barbie en Savoie, c'était quoi l'objectif ?
L'objectif, c'était de refléter mon parcours de soins et tout le soutien dont on pouvait bénéficier par l'institution. Pour ma part, j'ai eu très honte d'en parler, ce qui a fait que mes soins ont pris beaucoup de temps. Et à travers ce parcours que je suis en train d'effectuer, ce périple, je voulais aussi montrer qu'il fallait pas avoir honte. On a des frères d'armes, ce sont nos camarades, on peut leur en parler, ils nous jugeront pas et ils vont nous aider, bien entendu.
Aujourd'hui, vous n'êtes plus militaire ?
Non, donc j'ai été réformé des suites de cette blessure en 2014. Voilà, donc je ne suis plus militaire, je suis vétéran, donc ancien combattant.
Et Alexandre, donc, l'arrivée à Barbie en Savoie n'est pas le fruit du hasard?
Non, tout à fait, donc c'est très symbolique. Hein. Je suis parti de l'hôtel des Invalides parce que c'est le premier hôpital qui a été créé pour les blessés de guerre par Louis XIV. Et j'ai voulu rejoindre mon ancienne unité, le 13e bâton de chasseurs alpins, pour retracer tout ça. Voilà. Et puis ces 500 jours correspondent à peu près au nombre de jours que j'ai passé à l'hôpital. Et c'est une belle revanche sur ce long parcours de soins qui dure depuis 11 ans.
Eh bien, merci Alexandre de nous avoir sensibilisés à ce syndrome de stress post-traumatique.
Merci Alexandre. Merci,
vous
bravo.
Pouvez suivre Alexandre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et YouTube. Le nom du compte, Le Nouveau Vétéran.
Merci beaucoup.
Merci à vous Alexandre. C'est vraiment une super initiative, comme tous les soirs d'ailleurs. On vous retrouve demain, les amis, dans Défait le Monde.
À demain.
18h40 sur RTL. Bonne soirée.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.